Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est d'une cause majeure d'admission dans les services d'urgence dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé, des traumatismes crâniens. Traumatismes qui, en fonction de leur degré de sévérité, peuvent avoir un retentissement plus ou moins important sur la santé physique et psychique. Tout d'abord, identifier les signes, les symptômes du traumatisme crânien qui sont avant tout provoqués par des accidents de la voie publique. Des risques sur lesquels il est donc possible d'agir par la prévention comme par des dispositifs de protection. Accidents de moto, de vélo, mais aussi pendant les loisirs, notamment certains sports. Si de nombreux chocs n'engagent pas le pronostic vital, cela n'empêche pas que la récupération complète puisse prendre dans certains cas plusieurs mois, voire plus. D'où l'importance de ne pas minimiser, de consulter pour éviter des séquelles qui peuvent perturber l'audition, la mémoire, l'équilibre, le sommeil ou encore la concentration, entraîner des douleurs, une grande fatigue. Reconnaître et prendre en charge le traumatisme crânien, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et avec nous dans les studios de RFI, professeur Nozar Agakani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurochirurgien, coordonnateur du centre d'évaluation et de prise en charge des traumatismes crâniens légers au sein de l'hôpital Bicêtre APHP au Kremlin-Bicêtre. Vous êtes aussi professeur Agakani, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Togo le professeur Essosinam Kpelao, qui est aussi neurochirurgien et lui, chef du service de neurochirurgie du CHU Sylvanus Olympia de Lomé. Et puis une nouvelle maison des femmes vient d'ouvrir en région parisienne, c'est la cinquième. Cette fois, c'est dans l'enceinte de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart que s'est installé ce lieu de santé et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences. Nous entendrons celle qui coordonne le parcours de soins, Marine Muscat-Orbach. Elle est sage-femme de formation.
Priorité santé sur RFI.
Traumatisme crânien, commotion cérébrale, comment le diagnostic est-il posé? Comment éviter surtout la persistance des séquelles? Nos invités en direct pour répondre à vos questions au 33 7 61 18 46 41. Professeur Agakani, quand on s'intéresse au traumatisme crânien, de quelle cause, de quels symptômes parle-t-on exactement? Comment est-ce qu'on peut tout simplement définir un trauma crânien?
Un traumatisme crânien est défini par la transmission d'une énergie cinétique à un moment donné au niveau de la boîte crânienne et du cerveau. Donc il faut qu'il y ait d'une part un coup, une transmission d'énergie, et d'autre part, il faut absolument, pour définir le trauma crânien, qu'il y ait une perturbation transitoire ou un peu plus longue de fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois que vous cognez la tête au coin de d'une fenêtre que vous avez forcément un traumatisme crânien. Donc il faut que les deux soient combinés, énergie cinétique et transformation, enfin modification de fonctionnement cérébral. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des signes. Maux de tête, vertiges, troubles d'équilibre, troubles visuels, tous les signes qu'on peut avoir sur les sphères neurologiques. Donc c'est la combinaison de ces deux-là qui définit le traumatisme. Alors les traumatismes crâniens graves, on les voit tout de suite, parce que quelqu'un qui, après un choc, tombe dans le coma et qui ne respire pas ou qui n'ouvre pas les yeux, les gens se rendent compte. Ce qui est plus difficile, c'est les traumatismes crâniens légers qu'on discutera peut-être plus loin.
Ça veut dire que ceux-là, on risque de passer un petit peu à côté. La personne, voire même, ne va carrément pas consulter.
Très souvent.
Et elle va y aller quand on ne va pas dire que c'est un peu tard, mais hélas, on a perdu du temps. Il y a donc différents degrés de gravité. On peut imaginer que la conscience, c'est le premier critère. Et du côté des facteurs de risque, vous, dans votre service, vous prenez en charge certains traumas crâniens légers. Aux urgences, j'imagine que ce sont des traumas lourds qui arrivent, qui peuvent être référés. Les causes majeures de ces traumatismes, c'est quoi ?
Les traumatismes crâniens dans les services de neurochirurgie, ils sont pris en charge. Tous les traumatismes crâniens sont pris en charge. Nous, on a développé, si vous voulez, une expertise particulière pour prendre en charge des traumatismes crâniens légers. En plus, parce que, comme vous l'avez très bien dit, malheureusement, soit c'est pas diagnostiqué, soit quand c'est diagnostiqué, on est un peu démuni pour les prendre en charge. Mais les causes vraiment des traumatismes crâniens, c'est ce que vous avez, disons, un peu énuméré dans votre introduction. C'est les chutes. Ça peut être des accidents domestiques, c'est des accidents de la route. Maintenant, que ce soit véhicule ou maintenant de plus en plus le vélo et les trottinettes, par exemple. Et puis d'autre part, les sports ou agressions dans les sociétés qui deviennent de plus en plus violentes. Donc l'agression maintenant devient une cause importante des traumatismes crâniens.
On va parler de la prise en charge précisément avec vous. Mais si vous le voulez bien, tout de suite avant de vous retrouver, professeur Agacani, un coup de projecteur sur une cause bien spécifique, les accidents dans le sport.
RFI à Paris, 89 FM.
Et avec nous, justement, un spécialiste de ces commotions chez les sportifs. Vous avez d'ailleurs créé une consultation dédiée à l'hôpital Léopold Bellan de Paris. Docteur Jean-François Sherman, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qui sont ces patients que vous prenez en charge dans cette consultation de neurologie bien spécifique ?
Alors, j'avais créé en 2010 cette consultation commotion et sport à l'hôpital Bellan, mais malheureusement, elle n'a pas été pérennisée. Lorsque Bellan a déménagé à Saint-Joseph, ça ne les a pas intéressés parce que ça avait assez peu d'intérêt sur le plan lucratif. Il faut voir qu'un neurologue, c'est quelqu'un qui examine et qui fait assez peu d'examens complémentaires. Donc malheureusement, dans la société actuelle, il faut voir que l'hôpital a totalement changé et qu'on n'est plus du tout dans des... uniquement dans des considérations humanistes et voilà, c'est dramatique de dire ça, mais c'est un peu la vérité. C'est-à-dire que cette consultation a donc dû être arrêtée et je suis obligé de la faire malheureusement en libéral. Mais
ça veut dire que la logique économique finalement l'emporte sur certaines considérations de soins. Malgré tout, vous persévérez de votre côté.
Ah mais complètement, moi j'en ai vu 4000 des commotionnés du sport. Mais ce que je trouve très important dans le sport par rapport à toutes les autres causes, c'est que la question qui nous est demandée à nous spécialistes, et nous avons mis en place cette consultation parce que d'abord c'était pour le rugby, Il y a un procédé qui s'appelle le Head Injury Assessment, comme on voit quand on regarde les matchs de rugby professionnels, bah c'est en France que nous l'avons inventé pour le Head Injury Assessment 3 avec Alexis Savigny qui était médecin du Stade français qui est devenu médecin de l'équipe de France, à savoir que lorsque quelqu'un a une commotion, à quel moment va-t-il pouvoir reprendre un coup sur la tête ? Ce qui n'est pas exactement le cas de quelqu'un qui a un accident de la route ou quelqu'un qui tombe à un endroit. C'est-à-dire que dans le sport, c'est quand allez-vous pouvoir reprendre le rugby, le football, la boxe ou n'importe quel sport dans lequel vous risquez d'avoir un coup sur la tête. C'est une problématique très particulière.
Mais parfois, la problématique, elle se pose y compris pendant la rencontre.
Ah, complètement, mais la chose, elle est très simple. C'est que normalement, si vous voulez, dans les chiffres, c'est 50% des sportifs commotionnés continuent leur activité traumatogène. 50%. Or, grâce au protocole qu'on a mis en place dans le rugby, on est passé de 50% à 15%. C'est-à-dire que la plupart maintenant sortent. Et la question qui se pose, c'est aussi dans un second temps, à quel moment ? C'est-à-dire qu'on les retire de l'aire du jeu pour ne pas reprendre des impacts, parce qu'on sait que s'ils continuent à prendre des impacts, il va y avoir une prolongation de ce que vous appeliez tout à l'heure très bien, le syndrome commotionnel ou syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire les maux de tête, la fatigue, les troubles attentionnels, ces signes qui peuvent durer quelques heures à quelques jours. Et bien, si vous continuez à prendre des impacts, on s'est rendu compte qu'il y a des études qui montrent, et on a fait ces études-là aussi, qui montrent que plus vous restez sur le terrain et plus vous risquez de reprendre des impacts, ou voire même en faisant des accélérations, vos symptômes vont perdurer beaucoup plus longtemps.
Docteur Jean-François Sherman, vous avez cité le rugby, ballon ovale. Quels sont les autres sports, disciplines qui présentent, là encore, le plus de risques en termes de trauma crânien ?
Alors moi, je pense que ce qui est très important, c'est en termes de santé publique qu'il faut parler. Parce que même si dans la boxe, il y a plus de traumas crâniens, ou même dans le MMA que dans d'autres sports, en fait, la boxe, c'est 10 000 licenciés. Or, en fait, le football, c'est 2 millions. Donc, le sport le plus concerné en France, c'est avant tout le football. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de licenciés. On ne parle pas des professionnels. Les professionnels, c'est moins de 20% des pratiquants. Donc 99% des gens qui vont aller aux urgences pendant les commotions, eh bien, ce sont des amateurs. Et la plupart, c'est dans le football. Après, il y a évidemment le rugby, même si le rugby est plus traumatogène sur le plan du cerveau que le football, il faut savoir que c'est avant tout le football qui est concerné dans le monde par les commotions cérébrales, en termes de santé publique, je parle.
Précisément, on a un auditeur sur WhatsApp Team de la RDC de Goma qui demande quelles sont les meilleures mesures de prévention pour éviter ces traumatismes crâniens, par exemple dans le foot justement ou le cyclisme.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de prévention primaire, parce que la prévention primaire, c'est le protège-dents, c'est muscler ses muscles du cou pour avoir justement moins ce coup contre coup quand on prend un coup sur la tête. Mais en fait, c'est surtout la prévention secondaire. Je prends un coup sur la tête, je sors de l'air du jeu et je n'en reprends pas un tout de suite. Et j'attends au moins 24-48 heures afin de voir exactement comment les choses vont évoluer.
Si on est dans le sport, il y a des dispositifs de protection, je pense, outre-Atlantique notamment. Hein, quand on suit un petit peu les rencontres de hockey au Canada, tout le monde a un casque. Le foot américain, on a un casque. Certains rugbyman ont un casque. Pourquoi certains et pas d'autres ?
Bah parce qu'il n'y a pas de preuve qui montre que le casque protège des commotions cérébrales.
Tout simplement.
Je veux dire, si dans le football américain, il y a beaucoup de commotions, et malgré tout, ils ont des casques qui sont beaucoup plus protecteurs, entre guillemets, mais surtout des traumatismes crâniens plus graves. On parle des traumatismes crâniens légers. En fait, encore une fois, c'est le mouvement du ce qu'on appelle le coup du lapin, ou ce qu'on appelle le whiplash en anglais, qui provoque la commotion et donc le brinque-ballement du cerveau dans la boîte crânienne. Mmh. Et ça, le casque, il a très peu d'intérêt. Mmh. Le protège-dent a un intérêt. Alors après, il y a une rassurance qu'on met quand on met un casque, mais parfois ça peut être contre-productif parce que quand on met un casque, on pense qu'on est vraiment protégé, on va aller beaucoup plus fort avec la tête. Donc c'est pas ça l'intérêt, quoi. Et puis ce qu'a fait Outre-Atlantique n'est pas beaucoup mieux que ce que nous faisons. Je pense que nous, on a fait énormément de progrès en 10 ans. La France avait beaucoup de retard, mais on a mis en place le Head Injury Assessment aussi. La consultation à 48 heures par le neurologue, elle a été diffusée dans toute la France.
Si on traduit, c'est la procédure en cas de blessure de la tête, c'est ça ?
Dans le football professionnel ou dans le rugby professionnel, j'ai mis en place avec Alexis Savigny et ensuite avec le top 14, avec les différents médecins du top 14 et ensuite avec Emmanuel Laurent pour le football, la prise en charge des professionnels à 48 heures qui seront obligés de voir un neurologue qui a été choisi sur toute la France. La plupart du temps, c'est des PUPH, enfin des agrégés qui, dans leur service, reçoivent les professionnels de rugby ou de football pour justement valider la reprise, savoir exactement à quel moment ils vont pouvoir reprendre. Et ça, c'est une vraie sécurité, quoi.
Docteur Jean-François Sherman, à nos auditeurs qui sont un petit peu partout sur la planète et en particulier sur le continent africain, c'est quoi les conseils quand on pratique du sport, notamment du foot, hein, sur le sable? C'est comme ça que ça se joue dans les pays du Sud. Un petit peu comme ça, organisé ou pas organisé, ça dépend des cas. Quels conseils pour protéger la santé, on va pas dire de son crâne, mais de son cerveau, tout simplement?
Bah, je pense que ce qui est important, c'est que le sport, c'est déterminant pour la vie sociale, affective, psychologique. Ça vous permet de réaliser. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est pratiquer le sport le mieux possible, le plus possible. C'est génial, que ce soit du foot, du rugby ou n'importe quoi. En revanche, si un jour vous avez une suspicion de trauma crânien, si vous prenez un coup sur la tête, arrêtez-vous absolument et il faut voir ce qui se passe pendant les heures qui suivent. Si vous avez mal à la tête, si vous n'êtes pas bien, c'est bien d'aller dans un centre d'urgence comme à Bicêtre, pourquoi pas, parce que c'est intéressant. Maintenant, ce qui a été fait à Bicêtre, c'est exactement ce qui pouvait être fait au Canada il y a quelques années. C'est fondamental qu'il y ait une structure qui permette de prendre en charge les traumatisés crâniens légers pour leur informer de quoi faire et de ne quoi pas faire. Par exemple, pas prendre du paracétamol, parce que le paracétamol, ça peut induire des maux de tête, voir si justement on doit faire un examen neurologique approfondi et notamment morphologique. Est-ce qu'il faut faire un scan ou une IRM qui ne sont pas forcément des examens obligatoires et qu'on fait systématiquement. Si vous vomissez de manière répétée et si vous êtes très somnolent, à ce moment-là, il faut vite aller aux urgences parce que ça peut signifier qu'il y a un hématome. Donc voilà ce qu'il faut dire. Mais surtout, quand vous n'êtes pas bien, que vous avez pris un coup sur la tête, repos tout de suite.
Pas de pression,
votre cerveau.
Pas de pression. Un grand merci, docteur Jean-François, je vais y arriver, Sherman, pour toutes ces explications. Très bonne journée. On se tourne vers vous, professeur Agakani, votre confrère qui conseille donc d'aller dans votre service quand il y a un choc, parce que ce diagnostic rapide, on l'a compris, c'est très important. Comment ça peut jouer sur la prévention des séquelles? Et quand on parle de séquelles du trauma crânien, on parle de quoi exactement?
Juste pour préciser les propos de docteur Sherman, c'est que quand vous avez un traumatisme crânien léger, l'élément le plus important, effectivement, que ce soit pour les sportifs ou pour les autres, c'est de ne pas se mettre dans des conditions où ce traumatisme peut se reproduire. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est des études qui ont démontré, plus vous avez des traumatismes répétés, plus, malheureusement, vous avez des risques d'avoir des séquelles définitives. Ça, c'est la première... Nous, on a développé un centre pour prendre en charge les gens après les urgences. Donc, il y a encore une mission extrêmement importante pour les urgences qu'il faudra préciser. Et on fait un travail d'information concernant les urgences de la région parisienne actuellement. Les urgences sont développées pour s'occuper des problèmes urgents, comme ça. Mmh. Donc, c'est-à-dire que le job des urgentistes, c'est de détecter des lésions qui nécessitent une prise en charge urgente. C'est-à-dire, si vous avez un coup sur la tête, il faut vérifier s'il n'y a pas des lésions dans le cerveau qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, ce qu'on appelle un hématome, par exemple, intracérébral. Et donc, on a développé, des sociétés savantes ont développé des algorithmes qui permettent de dire... Madame X, quand il arrive après à l'hôpital avec un traumatisme crânien, quels sont les éléments qui nous obligent à faire un scanner? Quels sont les éléments qui nous obligent à le garder à l'hôpital? Quels sont les éléments qui nous obligent à refaire le scanner? Donc ça, c'est le travail des urgences. Jusqu'à maintenant, c'était que ça. Maintenant, on essaye de faire comprendre à tout le monde qu'il y a un élément d'information extrêmement important qui doit commencer dès les urgences. Dès les urgences, il faut dire à ces patients-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui peut leur arriver?
Quels sont les signes qui doivent les alerter?
Tout à fait. Ça, c'est des alertes. Ça, c'est déjà, ils le faisaient les urgentistes. Mmh. C'est-à-dire, dans quel cas il faut revenir à l'hôpital? On mettait des plaquettes pour dire que si vous avez des somnolences, si vous vomissez, si vous avez très très mal à la tête, si vous faites une crise d'épilepsie, il faut revenir. Maintenant, on essaye de développer un autre élément qui est informer les patients victimes d'un traumatisme crânien sur ce qui peut arriver à distance, dans les 48 heures, dans les 72 heures, dans les semaines qui viennent, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce qu'on sait très bien que l'élément essentiel, c'est l'information, l'éducation et l'assurance. C'est ces trois éléments-là sur lesquels il faut insister pour que, justement, les gens ne développent pas des symptômes chroniques. Et quand c'est chronique, c'est extrêmement difficile à prendre en charge.
Mais les gens se disent, je me suis cogné la tête, finalement, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un petit peu ça, ce qu'il y a dans l'esprit de chacun. Qu'est-ce que vous répondez, justement, à ces doutes?
On leur dit, on explique qu'est-ce qui peut arriver dans les jours et les semaines qui vont arriver. Et surtout, on leur dit, comment faire pour reprendre une vie normale? Parce que ce qui est, par exemple, très important, ce qu'a dit M. Sherman pour le sport, mais quand vous faites un accident, est-ce qu'il faut reprendre le travail tout de suite? Est-ce qu'il faut passer, quand on vous met au repos, par exemple, si vous avez un arrêt de travail, est-ce qu'il faut passer ces journées devant la télé ou devant des jeux vidéo à passer 24 heures sur 24 sur un écran? Tout ça, c'est des éléments qu'on essaie...
Des conseils simples, mais essentiels.
Tout à fait, c'est des conseils extrêmement simples, mais qui sont essentiels et qui surtout sont là pour empêcher que ces symptômes qui s'installent de façon définitive ou chronique. Et encore une fois, quand on prend en charge un an ou deux ans après ces patients-là, c'est extrêmement difficile de régler le problème. Alors qu'initialement, avec des conseils simples, comme vous avez dit...
Quand je vous écoute, ce que j'entends, c'est aussi, tout de suite après le choc, un point essentiel, c'est le vrai repos.
Tout à fait. Mais le vrai repos, il faut que les gens comprennent ce que c'est.
Ouais.
C'est pas dans l'eau noire, sans sortir de son lit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une vie...
Petite activité, mais raisonnable.
Raisonnable. Et surtout, là aussi, par exemple, à Bicêtre ou ailleurs, on a développé des grilles à disposition des gens qui leur disent comment reprendre une vie normale, comment commencer. Et à chaque fois, c'est de façon très progressive, en surveillant ces symptômes. Et à chaque fois, si les symptômes de nouveau sont apparus, on arrête, on descend au palier inférieur.
Professeur Agacani, on va poursuivre cet échange juste après Alabama Shakes, Don't Wanna Fight dans Priorité Santé sur RFI.
What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. We'll be right back.
can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des traumatismes crâniens, commotion cérébrale, léger ou grave. Quel risque de séquelles, quels signes nécessitent de consulter absolument et dans certains cas de retourner aux urgences. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Nozar Aghakani, neurochirurgien, coordonnateur du centre d'évaluation et de prise en charge des traumatismes crâniens légers au sein de l'hôpital Bicêtre du Kremlin. Bicêtre, professeur Aghakani, quand on parle de l'impact des traumatismes crâniens et des séquelles. Ces séquelles, c'est quoi précisément?
Alors, les séquelles, c'est assez protéiforme. Ça peut toucher vraiment tous les domaines de la vie. Ça peut être des séquelles somatiques, comme ça peut être des séquelles psychiques, comme ça peut être des séquelles émotionnelles.
Quand on dit émotionnel, c'est quoi, par exemple?
Ça veut dire que vous pouvez avoir des sauts d'humeur, des changements de personnalité, c'est-à-dire être très irritable, ou au contraire, être complètement apathique.
Pourquoi, si on essaie d'expliquer,
parce
qu'il y a une zone du cerveau qui a été atteinte et qui commande tout ça, en quelque sorte?
Même pour des traumatismes crâniens légers, il y a quelque temps, on appelait ces symptômes-là syndrome subjectif des traumatisés crâniens. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était des gens qui racontaient des histoires et qu'il n'y avait aucun substrat anatomique. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'après un traumatisme crânien, même léger, on peut avoir vraiment des atteintes anatomiques du cerveau et une perturbation de fonctionnement du cerveau. Donc il y a une perturbation de fonctionnement du cerveau qui génère ces symptômes.
Et ça s'observe à l'imagerie médicale?
Pas à l'imagerie médicale vraiment tout venant, si on veut dire, si pas forcément au scanner ou à l'IRM que vous pouvez faire dans une clinique, mais il y a des systèmes qui sont développés, des séquences particulières d'IRM ou des machines ou des protocoles particuliers d'IRM qui permettent de visualiser ces IRM. Ouais.
Alors on va prendre une question en direct, c'est en République démocratique du Congo, à Mbujimayi, qu'on retrouve maintenant Sephora. Sephora avec nous, Sephora, bonjour.
Bonjour Priorité Santé, bonjour à l'invité.
Alors, vous avez 23 ans, Sephora. Vous, un accident avec un choc à la tête, ça remonte à quand et dans quelles circonstances, s'il vous plaît?
Alors, ça remonte à peu près 2 ans maintenant. Et donc, j'étais de retour de quelque part. J'étais sur une moto, déjà j'étais sans casque.
Ouais.
Et la moto qui venait dans le sens contraire a percuté celle qui me portait. Et donc, j'ai fait une chute. Vous êtes cogné la tête au sol.
Vous êtes cogné la tête au sol. Vous avez des souvenirs de ce qui se passe à ce moment-là ou vous avez perdu connaissance?
Tout de suite, je connaissais, je savais tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc, j'avais pas de pic de mémoire. Non, pas du tout.
Après l'accident, est-ce que vous êtes rendu à l'hôpital?
Non, je suis pas allée à l'hôpital. Je n'avais pas de douleur non plus. Mais j'avais quand même pris, on m'avait prescrit des calmants pour prévenir la douleur.
Alors vous dites, on m'a prescrit des calmants. Qui et dans quelles circonstances?
Oui. Pardon?
Vous avez consulté qui finalement, puisque vous n'êtes pas allé à l'hôpital?
J'ai pas consulté à l'hôpital, mais mon père, il évolue dans le domaine médical et donc il m'a donné des calmants.
Il est infirmier, il fait quoi comme métier?
Oui, il est infirmier.
Il est infirmier. Donc, il vous a donné des calmants, vous n'avez pas vu de médecin. Est-ce que plus tard, vous avez eu des problèmes avec, par exemple, des douleurs au niveau de la tête?
Oui. Plus tard, j'avais des très fortes douleurs lorsqu'il fallait que je me concentre à faire quelque chose.
Oui.
Par exemple, pour étudier. Lorsque j'ai mimété, j'avais des très fortes douleurs, je ne supportais pas. Et là, j'étais obligée d'aller voir le neurologue.
Et à ce moment-là, j'imagine, vous lui avez parlé de ce choc à la tête et lui, il a fait directement le lien.
Oui, oui. Et donc, j'ai été examinée.
Oui.
J'ai porté un casque, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après,
il vous a fait un électroencéphalogramme.
Oui,
électroencéphalogramme. Il a vu quelque chose lors de cet examen des activités de votre cerveau?
Oui, il a dit que le cerveau avait été touché,
oui.
Donc légèrement touché. Il a parlé de lésions, si je ne me trompe pas. Il a parlé des lésions et qu'il était nécessaire d'aller directement voir l'hôpital après l'accident.
Oui, donc, mais c'était trop tard. Du coup, est-ce qu'il vous a donné un traitement, ce médecin?
Oui, j'ai pris les traitements pendant 3 mois, je crois. Mais sinon, je ne me rappelle plus des noms de produits.
Du médicament, oui.
Oui, c'était pas un seul médicament, j'en ai pris 3.
Aujourd'hui, comment ça va, Sephora, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je peux dire que ça va, mais j'ai quand même un petit problème au niveau de la ceinture crânienne. Je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça. Juste au bas du crâne.
Vous ressentez des douleurs localisées?
Oui, lorsque j'ai des fortes émotions, par exemple, je suis en colère ou je suis très heureuse ou je suis très stressée, j'ai l'impression qu'on me tire, en fait, qu'on tire cet espace-là, donc à ce niveau-là, oui.
Vous circulez encore en moto aujourd'hui, Sephora?
Oui.
Je ne vous fais pas la morale, mais je vous pose la question. Vous la voyez venir, ma question. Est-ce que vous mettez un casque?
Ouais, c'est le moyen de transport le plus...
Oui, je sais bien. Mais est-ce que vous mettez un casque maintenant?
Oui, mais pas toujours, parce qu'il y a certains transporteurs qui l'ont et les autres qui ne l'ont pas.
Ouais. Donc, peut-être qu'il faut l'acquérir soi-même et l'avoir avec soi. Je sais que c'est compliqué de transporter un sac toujours sur soi, un casque toujours sur soi, mais on peut imaginer qu'après ce qui vous est arrivé, et comme l'a expliqué tout à l'heure le professeur Agacani, quand on a déjà eu un traumatisme crânien, on est encore davantage vulnérable. On écoute votre question, Sephora, allez-y, je vous en prie.
Oui, ma question était celle de savoir si les douleurs que je ressens sont liées à la chute que j'ai eue il y a près de 2 ans maintenant. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a des conséquences.
Alors, vous imaginez bien...
Pas maintenant, mais après,
il
y a des conséquences.
Ouais. Alors, Sephora, on ne vous voit pas, le médecin ne peut pas faire un examen sur vous, donc il ne peut pas se prononcer à distance. On ne peut pas non plus lire l'avenir, ce serait sinon, on aurait beaucoup, beaucoup de succès à l'international. Par contre, par rapport à ce qui vous est arrivé, professeur Agacani, notre auditrice du Congo, a ses douleurs 2 ans après l'accident, le neurologue a vu des lésions à l'examen, après ce choc à la tête, il y a quand même des éléments par rapport à tout ce qu'elle a raconté.
Oui, mais enfin, d'après ce qu'on comprend, c'est quand même, elle avait eu un traumatisme crânien, heureusement sans lésions importantes au niveau du cerveau, et qu'avec une bonne évolution, comme la majorité des gens qui ont quand même un traumatisme crânien. Mais ceci dit, c'est possible que ces douleurs soient en rapport avec ce traumatisme. Donc la meilleure chose à faire, c'est de consulter un neurologue, éventuellement, qui soit intéressé à ces problèmes de traumatisme crânien pour la prendre en charge.
Ça veut dire 2 ans après, on peut encore agir?
Oui, oui, tout à fait. Tout à
mais
fait.
Par exemple, on peut
surtout,
faire quoi?
Surtout que si c'est simplement d'un problème de douleur et qu'il n'y a pas de répercussions, disons, vraiment fonctionnelles cérébrales, ça peut être pris en charge par des ergothérapeutes, par des kinésithérapeutes. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est, tout est possible. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour l'avenir en disant est-ce que des choses pourraient arriver? Bah, apparemment, quand on entend, il n'y a pas beaucoup de symptômes qui persistent actuellement. Elle va plutôt pas mal. Elle a, semble-t-il, une vie normale. Et donc, ces douleurs, je pense qu'on peut les gérer. Oui, tout à fait.
Gérer. Donc, moi, par contre, ce qu'il faut gérer, c'est la prévention.
Ah, bah, ça, c'est l'élément essentiel. Il faut que après, c'est toujours facile à dire, difficile à faire dans une société, faire admettre par les gens. C'est que, comme a dit aussi encore une fois le professeur Sherman, dans les sports, il n'y a pas de prévention primaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Alors, il y a des gens qui militent pour ça. C'est-à-dire le sport sans coup de tête ou de rugby sans contact, mais après, c'est plus rugby.
Ça change.
C'est plus rugby. Mais dans la vie de tous les jours, on peut éventuellement ne pas se mettre dans des conditions où les risques sont importants. Donc, quand vous prenez le moto, mettez un casque.
C'est vraiment ce conseil à retenir. Un grand merci à vous, Sephora, pour votre appel. Très bonne journée à Mboujimaï. Professeur Agacani, on va maintenant donner la parole à l'un de vos confrères. On part au Togo.
RFI à Lomé.
Pour Professeur Essosinam Pelao, bonjour.
Bonjour, Madame Paré.
Vous êtes neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, prof à la Fac des sciences et de santé de l'Université de Lomé, que l'on connaît bien à Priorité Santé. Professeur Pelao, est-ce que les traumatismes crâniens, ça représente une part importante des prises en charge dans vos services en neurochirurgie ?
Bien entendu, parce que c'est une pathologie quand même très fréquente. Elle représente 22% à peu près des admissions aux urgences et 35% des hospitalisations en neurochirurgie et 25% de notre activité opératoire. Donc c'est une pathologie quand même très fréquente.
Très fréquente. Si on regarde du côté des causes, tout à l'heure on a une auditrice qui avait eu un accident de moto. Chez vous aussi, à Lomé, la circulation, c'est un facteur majeur d'admission aux urgences ou en neurochirurgie ?
Oui. Vous savez, bon, au Togo, comme dans la plupart des pays subsahariens, le principal moyen de déplacement sont les motocyclistes. Donc, ils sont pourvoyeurs des accidents, des traumatismes crâniens et impliqués dans plus de 70% des cas.
Oui.
Donc, c'est vraiment les principaux pourvoyeurs des traumatismes crâniens.
Donc, c'est énorme. Et ces patients, ils arrivent rapidement après le choc lorsque c'est justement un accident de la circulation ?
Et ça dépend du lieu de l'accident parce que bon, le Togo ne dispose que de deux services de neurochirurgie, un au sud et un autre à Caraz dans la région septentrionale. Avec un rayon d'action de 300 km à peu près, donc quand l'accident a lieu dans l'agglomération de Lomé, disons, il y a un délai de 1 heure à 3 heures, tant que les pompiers arrivent sur le lieu, fassent le transport du patient. Mais quand c'est dans une autre ville, autre que Lomé, bon, il faut un certain délai. Mais le plus souvent, ils transitent dans des centres périphériques avant d'être transférés secondairement au CHU pour la prise en charge.
Avec toutes les conséquences que peuvent avoir ces retards de prise en charge. Professeur Pelao, restez avec nous parce qu'on a un auditeur qui est aussi médecin qui veut partager son expérience. C'est Aaron qui est à Kinshasa. Aaron, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, vous exercez-vous, Aaron, la médecine générale. Et à ce titre, vous avez envie de faire passer un message aux auditeurs en RDC et ailleurs. Ce message, c'est un message de prévention. On vous écoute, Aaron.
Tout à fait. Merci de la parole. Je vais, au fait, donner un petit témoignage et un conseil en termes de message ayant une visée préventive, puisque parfois, quand on est dans un milieu extra-hospitalier, on ne se représente pas exactement la fréquence des traumatismes crâniens et le contexte dans lequel le traumatisme crânien arrive à l'hôpital. Il faudra affirmer que dans nos milieux, les traumatismes crâniens sont très fréquents et l'accès à la neurochirurgie est très difficile par rapport à certaines facultés. Mais en tout ça, la grande cause, ce sont des accidents de trafic routier. Bien qu'il y en a d'autres, mais en majorité, ce sont des accidents de trafic routier.
Et chez vous aussi, Aaron, excusez-moi, Kinshasa, parce que le son est vraiment épouvantable derrière vous, ça fait quasiment mal aux oreilles. Vous aussi, vous constatez que dans la capitale, à Kinshasa, très peu de monde porte un casque ?
Bien sûr, très peu en tout cas.
Et vous, ça veut dire qu'en tant que médecin généraliste, chez vous, il y a des traumas crâniens qui arrivent et vous constatez toutes les difficultés de prise en charge par un spécialiste en neurochirurgie, parce qu'on peut imaginer, une fois qu'il y a le diagnostic, il va y avoir les examens, il faut payer, c'est compliqué. Et puis s'il y a besoin de chirurgie, là aussi, le coût est énorme avec tous les problèmes de plateau technique.
Tout à fait. Surtout que tous les hôpitaux aussi ne disposent pas de services de neurochirurgie. Il faudra alors un transfert vers des centres spécialisés. Ce transfert-là qui peut encore aggraver ce traumatisme, mais passer aussi d'un hôpital à un autre, c'est encore des dépenses et des risques pour le malade. Donc, le contexte.
Un grand merci à Aaron pour votre témoignage très important de Kinshasa. Professeur Essosinam Pelao, c'est vrai, vous l'avez dit déjà, vous, avec le cas du Togo, deux centres de neurochirurgie pour l'ensemble du pays. L'un des problèmes majeurs au-delà du diagnostic et des séquelles quand on parle du trauma crânien dans votre contexte, c'est bien tout simplement la possibilité de prise en charge, l'accès aux soins.
Oui. Bon, c'est la neurochirurgie, surtout dans notre contexte, elle demeure quand même onéreuse. Hein. Par exemple, à titre d'exemple, pour une prise en charge chirurgicale en urgence d'une complication liée au traumatisme crânien, il faut débourser 400 000 francs à peu près. Donc ça fait, je crois, autour de 600 euros.
Oui.
Et ce n'est pas forcément accessible à toute la population, même s'il existe une assurance maladie universelle qui est à ses débuts actuellement, mais malheureusement qui ne couvre pas encore l'ensemble de la population, je crois. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit tourner autour de 10% actuellement.
Oui, donc c'est minime.
C'est minime. Et donc, ça peut constituer un retard, un obstacle pour, dans la prise en charge des traumatismes crâniens.
Une question importante, professeur, par rapport aux centres de santé primaire, bien évidemment, tous ces centres qui sont disséminés sur l'ensemble du Togo, est-ce qu'il y a une bonne formation des soignants, infirmiers, aides-soignants, parce que souvent, il n'y a pas de médecin dans ces centres, hein, tout simplement, pour vous orienter, pour orienter les patients quand il y a un trauma crânien?
Bien sûr, bien sûr. On essaie, bon, parce qu'on sait qu'actuellement, on est 8 neurochirurgiens pour
toutes tout les le pays du
territoire, pour tout le pays. Donc, on est obligé d'organiser quand même des enseignements post-universitaires et on essaie de temps en temps, par la sensibilisation, de passer de préfecture à préfecture dans différentes préfectures pour essayer quand même de codifier, de mettre des protocoles pour la prise en charge des traumatismes crâniens, parce qu'on sait qu'initialement, ils seront pris en charge en périphérie avant le transfert dans un service spécialisé. Donc, et tout le monde connaît un peu l'importance de la prise en charge initiale des traumatismes crâniens, parce que c'est ça même qui va, avec le temps, greffer, disons, les complications. Et les complications, c'est-à-dire que dès qu'on prend en charge efficacement le patient initialement, et on a quand même eu certaines garanties de limiter les complications après.
Avec un certain nombre de conseils de première heure, on va dire. On vous remercie infiniment pour cet échange, hein, professeur Pelao. Bonne journée à Lomé. On vous retrouve pour conclure, professeur Nozar à Gakani. Hein, quel que soit le plateau technique, on l'a bien compris, le grand écart, on va même dire le fossé, la couverture santé. Il y a ces messages de prévention qui valent pour chacun.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut séparer aussi des types de traumatismes crâniens. On a commencé par ça au début. C'est-à-dire que pour les traumatismes crâniens graves, la prise en charge aiguë neurochirurgicale est essentielle. Pour les traumatismes crâniens légers, c'est essentiellement l'information, l'éducation et la réassurance qui est importante. Et puis, il y a une prévention globale. C'est pour la société en général. C'est l'histoire de casque, notamment dans les transports et tout. Donc, si vous me permettez, le slogan qui était à un moment à la mode pour d'autres problèmes, c'est sortez couvert.
Sortez couvert, mais ça veut dire aussi qu'il y a des changements de pratiques, d'usage avec les générations et qu'il faut suivre aussi.
Bien sûr.
On voit la trottinette, quand on voit les casques audio, c'est super d'écouter de la musique dans la rue, mais il faut faire attention.
Je pense que cette discussion qu'on avait avant, c'est que je pense qu'il y a malgré tout une sorte de législation qu'il faudra faire, mais ne serait-ce qu'en France aussi, pareil, c'est pour l'usage de ces engins, que ce soit la trottinette, le vélo, les gens ont l'impression, alors pour la voiture, vous êtes obligé de passer par le permis de conduire, donc on vous explique ce qu'il faut faire, il y a des choses à pas faire, alors que pour le vélo et les trottinettes, vous pouvez sortir d'une soirée très arrosée, prendre le vélo pour rentrer chez vous, et c'est encore pire que la voiture.
Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de protection par la carrosserie. Professeur Agakani, on a compris ce message, ne pas minimiser les symptômes et ne pas hésiter à retourner consulter en cas de doute après un choc à la tête. Vous l'avez dit tout à l'heure, même 1 an, 2 ans après, on peut encore agir.
C'est possible, oui. Plus vite on agit, mieux c'est, et plus facile à agir, mais même à distance, on peut essayer d'aider les gens.
Merci beaucoup, un grand merci professeur pour votre éclairage. On va parler dans quelques instants d'une nouvelle structure dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences en région parisienne. Ce sera juste après James BKS avec On My Way dans Priorité Santé sur RFI.
Young soul had a big dream stored away in the basement. Melodies and rap schemes day and night in his Walkman. Losing track of time, making beats in 05. 106 in Park on TV, he knew by heart all the guests. He was in love with free, wanted to be Kanye West. I'll take you back to the beginning, when no one believed, no one believed. Well, yeah, yeah, yeah. Gotta give
give the boy a chance.
Yeah, yeah, yeah.
To fly and become a man.
I'm on my way, I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way, I'm on my way.
Pops played in tune just like him. Heritage to embrace. 30 years in silence. Life took a turn for the best. Guided by the rhythm. They both had a second chance. From dorm room to the main stage, never felt so alive. Flashing lights, he lost sight that flowers bloom in due time. I'll take you back to the beginning, when no one believed, no one believed. Well,
yeah, yeah, yeah.
Gotta give the boy a chance.
Yeah, yeah, yeah.
To fly and become a man.
My way. I'm on my way, I'm on my way.
In the symphony of life, no one but I will make it right.
Yeah, yeah, yeah.
Gotta give the boy a chance.
Yeah, yeah, yeah.
To fly and become a man.
I'm on my way.
Il s'agit de la 5e maison des femmes ouverte à Paris et dans sa région par la PHP. Et cette fois, c'est à Clamart, au sein de l'hôpital Antoine Béclair, que ce lieu d'accueil dédié à la prise en charge des femmes de victimes de violences vient d'ouvrir. Et pour en parler avec nous, on vous retrouve. Marine Muscat-Orbach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme chargée de la coordination du parcours de soins de cette maison des femmes de Clamart. Alors, on a souvent invité dans cette émission la docteure Rada Hatem, spécialiste gynécologue obstétricienne, qui a créé la toute première maison des femmes à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine. Une nouvelle maison des femmes, à chaque fois un concept qui a fait ses preuves. Mais bien sûr, vous allez nous le réexpliquer. Marine Muscat-Orbach, un lieu unique pour une prise en charge globale. Qu'est-ce que ça change pour les femmes d'avoir à côté de chez elles une maison des femmes ?
Alors, c'est exactement ce que vous disiez. L'idée, c'est d'avoir un lieu unique. Donc, les femmes, elles n'ont plus besoin d'aller à droite voir le médecin, à gauche voir une assistante sociale, dans un autre lieu encore voir une association juridique. L'idée, c'est d'avoir dans un même lieu, un lieu accueillant d'ailleurs, tous les professionnels médicaux, psychos, sociaux, ainsi que les associations juridiques.
La ligne vient d'être perdue. Marine Muscat-Orbach.
Nous avons aussi des liens qui vont permettre un dépôt de plainte facilité avec des conventions avec la police.
Des conventions avec la police, ça veut dire que comme on parle de violence, dans certains cas, il peut y avoir des recours et le fait que les services de sûreté soient directement sur place, ça évite que certaines femmes ne soient dissuadées et finalement abandonnent ces recours.
C'est exactement l'idée, parce qu'on sait que le chemin vers le commissariat n'est pas toujours évident. On essaye de faire venir la police sur place, ou en tout cas qu'ils puissent venir chercher les femmes au sein de la structure pour les accompagner, afin de faciliter le dépôt de plainte. Et le fait d'avoir des conventions fait aussi en sorte que les policiers sur place aient aussi des formations et puissent mieux accueillir la parole des femmes.
Je voulais justement insister sur ce point. Si certaines femmes ne vont pas porter plainte, c'est en raison notamment, je systématise pas, mais de l'accueil qui peut leur être fait dans les commissariats. Là, on va dire que ce sont des personnels informés, préparés et particulièrement attentifs à ce qui leur est arrivé.
Oui, exactement. Il faut savoir aussi que les policiers qui sortent de l'académie de police depuis plusieurs années ont des formations faites en systématique dans leur formation initiale. Donc, il y a quand même de plus en plus de professionnels formés au sein de la police. Et donc, les femmes, elles sont quand même mieux accueillies aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas systématiser. Il reste toujours du travail, comme dans toutes les structures, à l'hôpital ou ailleurs. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de tous les côtés.
Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous étiez chargée de coordination du parcours de soins. Est-ce qu'il y a d'une certaine façon un parcours préétabli pour les patientes ou est-ce que tout est fait au cas par cas ?
Alors, il y a une sorte de parcours clé qui commence par une première consultation en binôme avec ma collègue infirmière et moi-même, donc sage-femme. Suite à ce rendez-vous, on va discuter en équipe de qu'est-ce qu'on peut proposer à la femme pour bien la prendre en charge. Et donc, on va faire une réunion d'équipe. Et suite à cette réunion, on recontacte la femme en lui proposant psychologue, assistante sociale, en fonction de son projet et de ses désirs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être au cas par cas, mais il y aura toujours une première consultation d'évaluation avec la femme.
Prise en charge des violences faites aux femmes, quel type de violence ?
Alors, c'est tout type de violence, que ce soit des violences physiques, verbales, psychologiques, administratives, économiques, sexuelles, évidemment. Il ne faut pas oublier les cyberviolences qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes. Voilà. Et évidemment, il y a les violences faites aux enfants. Et on travaille du coup avec l'UAPED de l'hôpital Antoine Béclair. Donc, on est la première maison des femmes d'Île-de-France à avoir au même sein de l'hôpital et l'UAPED et la maison des femmes.
L'UAPED, on va détailler, c'est une unité pédiatrique, c'est ça ?
Unité pédiatrique enfance en danger, excusez-moi.
Voilà. Vous disiez tout type de violence, il faut bien insister auprès des femmes pour cela, parce qu'il ne faut pas minimiser certaines d'entre elles et dire que finalement ça va passer ou ce n'est pas si grave. Non, c'est intolérable et ça doit être remonté et il doit y avoir, face à ce genre de situation, des suites au moins pour se réparer. Autre question, même si votre maison ouvre aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le profil de ces femmes qui vont venir frapper à la porte de cette maison, on l'a dit, accueillante ?
Alors, il faut savoir que les violences touchent toutes les femmes, tout type de milieu, quel que soit le milieu social. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des femmes qui sont effectivement sans domicile ou dans des milieux précaires, mais ça peut être aussi des femmes, des chefs d'entreprise, des avocates, n'importe quel type de milieu. Il faut savoir qu'il y a des violences vraiment dans tous les milieux. Et donc, on attend des femmes de tous les milieux. On a commencé, donc, on a ouvert hier. Et effectivement, pour l'instant, on a des femmes qui viennent de milieux différents.
Différents. Alors, une prise en charge indispensable. Bien sûr, il y a des femmes qui sont victimes, vous l'avez dit, de violences physiques. Il y a aussi tout le côté émotionnel et psychique, parce que tout ça, c'est un avenir non seulement sur leur santé mentale, on l'entend bien, mais même sur la santé physique. Il y a des études qui montrent que l'espérance de vie pour ces femmes victimes de violences, eh bien, elle est remise en cause, leur espérance de vie.
Effectivement, il y a des études qui montrent qu'il y a une diminution de 4 ans d'espérance de vie chez les femmes victimes de violences. En effet, les violences, elles vont avoir des conséquences sur le psychisme. Il y a plus de suicides, plus de tentatives de suicide chez les femmes victimes de violences, mais aussi sur la dégradation de leur état de santé somatique, c'est-à-dire une aggravation des maladies chroniques, soit parce qu'elles prennent moins soin d'elles, soit parce qu'on leur empêche de prendre soin d'elles.
Donc, on renvoie à votre maison, hein, l'une des 5 maisons des femmes, cette dernière qui vient d'ouvrir à Clamart, à l'hôpital Antoine Béclair. Un grand merci à vous, Marine Muscat-Orbach. Toutes les questions pratiques, localisation, horaire, on met sur la page de l'émission l'article dédié à l'ouverture de cette 5e maison des femmes au sein de l'APHP. Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise votre magazine. Ophélie Lassène, Louise Kaledek, Talim Pouo, Victor Hull et Didier Chérouse à la réalisation. Demain, nous allons parler du trouble bipolaire, une maladie psychiatrique qui peut affecter l'humeur, phase dépressive, d'autres caractérisées par une hyperactivité ou une excitation plutôt atypique. On parlera du diagnostic, de la prise en charge pour limiter l'impact de cette maladie bipolaire sur la qualité de vie du patient comme de son entourage. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.